Bienvenue aux Apatrides Anonymes du 1er décembre 2022 sur choc.ca ou Radio Victoria 107.9 FM dans l'Ouest canadien. Petite parenthèse, déjà une parenthèse, nouveau premier ministre en Colombie-Britannique, David Eby, considéré comme militant de gauche, mais qui ne semble pas avoir de position particulièrement audacieuse sur l'immigration. On va regarder ça. Petite parenthèse terminée. Bonjour à tout le monde à Victoria. Simon avec vous à l'animation et pour quelques petites brèves tout au long de l'émission, aux chroniques et à la mise en onde en rotation cette semaine, Marie-Ève et Mathieu.
Bonsoir.
Salut Marie-Ève, salut Mathieu.
Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir. Donc Marie-Ève, contenu 100% européen, Royaume-Uni plus tard dans l'émission et France dans quelques minutes.
Oui, je reviens à mes anciens amours.
Je pense que t'es française. Il va falloir élucider ce mystère-là. Et Mathieu, qui est actuellement à la console, enjeux autochtones et actualité internationale, autres que France et Angleterre, là, qui sont les chasses gardées de Marie-Ève. Mais quel pays, Mathieu? Tigré,
Nigeria...
Kazakhstan,
Algérie, si j'ai le temps. Donc on se promène dans le centre du monde.
T'es dans la diversité, mon
Asie, Dieu, Afrique, hein? Maghreb.
Parfait. On aura aussi plus tard le traditionnel agenda vers la fin de l'émission, quelques nouveautés musicales indépendantes. C'est quoi les Apatrides? Pour ceux celles qui ne savent pas, c'est votre rendez-vous radiophonique bimensuel tous les deux jeudis 18h30 en direct des studios de Choc à l'UQAM ou en balado sur différentes plateformes. On parle de racisme avec parfois des citations horribles de nos beaux politiciens et chroniqueurs. On vous parle de bureaucratie impossible en immigration, de frontières de plus en plus techno-hermétiques, de bateaux de sauvetage en Méditerranée qui se voient interdire l'accès aux ports européens pour y débarquer des rescapés. Bref, toujours plein de sujets brûlants d'actualité pour vous chaque deux semaines sur choc.ca. On va y aller avec quelques notes de musique. On va commencer avec Marie-Ève qui nous amène en France. Voilà, après ce petit indicatif de... Donc, ben Marie-Ève, je te sens prête à nous raconter ce qui a retenu ton attention en France, mais je vais prendre le micro encore une fois. Quelques minutes pour parler d'actualité dans deux pays européens dont on parle un peu moins souvent, l'Allemagne, mais je commence avec l'Autriche. Il y a eu des états généraux entre les 9 états fédérés autrichiens, les Länder et le gouvernement central, pour se pencher sur la question du logement pour les migrants, parce que l'Autriche... Oui, elle est parfois la destination visée par les migrants et migrantes, mais souvent, elle est juste la porte d'entrée européenne de la route des Balkans. Donc, c'est vraiment le point principal de cette route qui est très achalandée pour se rendre ensuite plus loin vers l'Allemagne, la France, etc. On voyait les chiffres il y a quelques semaines, la route des Balkans est achalandée comme rarement auparavant. Par rapport à 2021, en Autriche, on constate une augmentation des entrées sur le territoire de plus de 200%, donc trois fois plus. Évidemment, il y a les réfugiés ukrainiens qui dopent les chiffres, 80 000 depuis le début de la guerre versus pas loin de zéro réfugié ukrainien lors des années précédentes. Pour ce qui est des pays d'origine plus fréquents des personnes migrantes en Autriche, soit la Syrie, l'Afghanistan, l'Inde et la Tunisie, on constate aussi une hausse importante. Si on compare, c'était 40 000 en 2021 versus 70 000 cette année. Donc, on devrait finir l'année peut-être à 75 000, quasiment doublé. Tout ça sans oublier que les logements étaient déjà en nombre insuffisant. On parle de logements temporaires, de infrastructures d'accueil. Mais là, ça se transforme en joute politique. Donc, il y a 7 des 9 États autrichiens qui refusent les quotas actuels de logements pour les réfugiés qu'essaie d'établir le gouvernement autrichien central. Le Haut Commissariat pour les réfugiés calcule qu'à court terme, seulement 5 000 logements temporaires pourraient permettre d'absorber l'afflux parce qu'il y a un roulement. Donc, c'est pas tant que ça, 5 000 logements. Ce serait pas un effort si important de la part des Länder, surtout qu'ils peuvent sous-traiter, envoyer ça vers les municipalités, envoyer des budgets vers des associations. Il faudrait juste que certains politiciens arrêtent de se faire du capital politique sur le péril migratoire qui est toujours aussi à la mode en Europe depuis... que l'Europe existe. Fait que pendant que les Länders se tiraient, ben c'est, comme je disais, les municipalités, les associations locales qui s'en occupent, sans que le gouvernement ne leur alloue de budget pour ça. Fait que c'est elles qui mettent la main à la pâte, organisent toutes sortes d'infrastructures d'accueil temporaire, bâtiments vacants, gymnase, aréna, hôtels réquisitionnés et même des campements avec tentes le long des frontières. Ce qui est décrié par plusieurs groupes parce que ça crée des conditions de vie, de sécurité, de salubrité qu'on juge inappropriées, voire inhumaines. La voisine de l'Autriche, maintenant, l'Allemagne, fait les manchettes pour d'autres raisons. D'abord, depuis la prise de Kaboul par les talibans en août 2021, l'Allemagne a reçu 26 000 réfugiés afghans. Mais en plus, le gouvernement vient de lancer un programme spécial pour les personnes afghanes qui sont jugées plus particulièrement à risque avec le régime actuel et qui sont encore dans le territoire afghan et qu'il faudrait extrader, donc un genre de programme d'évacuation. Les demandes peuvent être envoyées à la fois au gouvernement allemand et à différentes ONG qui ont reçu le mandat de participer à ce programme-là. La réponse s'est pas faite attendre au point qu'on a perdu le compte des demandes d'adhésion au programme, mais on aurait facilement dépassé les 100 000 demandes en quelques jours.
Aïe.
Donc ça, c'est un programme spécial pour tout Afghan qui se considère lui-même ou elle-même vulnérable. Et en même temps, l'Allemagne a lancé un genre de sous-programme destiné aux militants des droits humains, aux journalistes et aux fonctionnaires de l'ancien régime, considérés comme collaborateurs par les talibans. Dans ce programme-là, c'est pas la personne elle-même qui fait la demande. Il faut avoir été recommandé par une ONG mandatée comme Reporters sans frontières. Et via ce programme plus niché, on entend faire venir en Allemagne 1 000 Afghans par mois. Et ça peut aussi inclure les proches ou la famille des personnes visées. Donc tout ça est bien beau, bien noble, mais selon la plupart des ONG qui sont impliquées, ça a vraiment été fait tout croche. Infos pas disponibles, parfois seulement en allemand, souvent contradictoires. Responsabilité, budget, tout ça est mal défini. Les modes d'opération, par exemple, comment on va évacuer et prendre en charge les gens, c'est pas clair. Donc, les ONG sont complètement submergées de demandes qu'elles sont pas capables de traiter, de demandes pour lesquelles elles ont pas les réponses et ça monopolise toutes leurs ressources. Bref, un joli chaos qui part de belles intentions, mais qu'il va falloir qu'on surveille dans les prochaines semaines parce que ça semble vraiment intenable pour l'instant. Disons que la légendaire efficacité allemande, elle est mise à rude épreuve avec ses programmes improvisés. J'en arrive finalement à Marie-Ève. Est-ce que tu es prête à nous parler de France, Angleterre?
Je commence avec la France.
Parfait.
Oui, d'abord du côté de l'extrême droite, il y a Jordan Bardella qui a été élu président du Rassemblement national, le RN, le Feu...
Feu, oui, le Feu Front,
feu front
mais lui, ce monsieur-là, on ne connaît pas, je pense.
Ah, vous allez voir, je vais vous présenter. Okay. Alors, lui, il a été élu par les membres du parti au début novembre en remplacement de Marine Le Pen, qui redevient simple député après 11 ans à la tête du RN.
Okay.
C'est la première fois qu'un chef de ce parti-là est pas, porte pas le nom de la dynastie familiale Le Pen, mais... Il fréquente une nièce de Marine Le Pen.
Ah.
Donc, on peut considérer que la présidence reste dans la famille.
Donc, le photographe de Paris Match sera pas trop mélangé.
Non, c'est ça. En plus, cette étoile montante de l'extrême droite française, qui a seulement 27 ans, a été élue avec près de 85 % des voix face à Louis Alliot, qui, lui, est l'ex de Marine Le Pen.
Ah, ça fait des beaux enfants, tout ça.
Donc, tout est dans tout, comme on dit. Le vote a eu lieu en plein incident raciste, vraiment pas chic, déclenché quelques jours plus tôt par un autre député du RN à l'Assemblée nationale, Grégoire de Fournasse, qui a lancé, et je cite, « qu'il retourne en Afrique alors qu'un député noir de la gauche radicale évoquait un bateau de migrants en détresse dans la Méditerranée, c'est-à-dire le Ocean Viking. » Toujours très chic, comme je disais, l'extrême droite française. Donc, on va suivre quel genre de tournant ce cher nouveau poulain des Le Pen va donner au parti.
Mais ça peut être pire. Madame Le Pen avait quand même fait des efforts pour essayer de rendre son parti plus acceptable. Et donc, on verra.
Ça risque de pas trop bien marcher. Mais pas besoin d'être membre du RN pour faire passer des lois anti-immigration, que nenni. Une semaine avant la consécration de Jordan Bardella, les ministres français du Travail et de l'Intérieur, Olivier Dussopt et Gérald Darmanin, ont présenté un projet de loi sur l'immigration qui prévoit une nette augmentation des procédures d'expulsion, tout en facilitant, d'un autre côté, l'insertion des travailleurs étrangers. Je cite le brillantissime Darmanin.
Oui.
Si je devais résumer, je dirais que on doit désormais être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils.
Dieu, il s'adresse à qui exactement?
Je ne sais pas, mais c'est d'une logique, d'une simplicité déconcertante.
Eh oui.
Le projet de loi se décline. On n'a pas eu beaucoup d'informations, mais il y a 5 points principaux. D'abord, inscrire les migrants, migrantes menacés d'expulsion au fichier là, qu'on appelle des personnes recherchées, qui est entre autres utilisé par les divers corps policiers puis les agents de douane pour rechercher, surveiller ou contrôler certaines personnes. C'est que la France émet environ 120 000 obligations de quitter le territoire français par an, mais en exécuterait seulement moins de 10 %.
Okay.
Donc, cette méthode-là aurait pour but là, de garder un œil plus attentif sur les renvois réels et effectifs. Le ministre de l'Intérieur veut aussi mettre fin à ce qu'on appelle les réserves d'ordre public qui empêchent d'expulser les personnes arrivées en France avant l'âge de 13 ans.
Ouais,
c'est ça. Le projet de loi prévoit aussi plusieurs réformes en matière d'asile qui sont assez techniques. Là, je rentrerai pas dans le détail, mais dont une chose assez importante qui est la généralisation d'un juge unique à la Cour nationale du droit d'asile par opposition normalement à un panel de juges ou de juristes. Là, ce panel-là se réunirait seulement dans des cas très difficiles. Et on veut aussi la généralisation des audiences en vidéo et non plus en personne. Concernant plus spécifiquement les travailleurs-travailleuses, il y a 3 mesures qui s'ajoutent. D'abord, la fin de l'interdiction de travailler pendant les 6 premiers mois pour un demandeur d'asile, ce qui est quand même une bonne chose, sauf que ce sera sur certaines conditions seulement, dont les détails n'ont pas été dévoilés. Il y a aussi la création d'un titre de séjour métier en tension.
Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est pour combler la pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs qui, eux non plus, n'ont pas été spécifiés. Sauf que, bon, on sait que les travailleurs, travailleuses sans papier sont particulièrement présents dans la construction, la manutention, les services à domicile, restauration, hôtellerie et agriculture. Plus généralement, le gouvernement veut ouvrir la porte à une réforme qui est réclamée là, depuis longtemps de la part par les syndicats, c'est-à-dire permettre à un travailleur ou une travailleuse en situation irrégulière de demander lui ou elle-même sa régularisation sans passer par l'employeur parce que, bon, lui, il peut avoir un intérêt à maintenir cette personne-là dans la clandestinité. Pour vous expliquer un peu, c'est un peu comme ici avec les travailleurs, travailleuses migrants temporaires. La procédure actuelle en France requiert un contrat de travail ou une promesse d'embauche, comme ici. La durée du titre de séjour correspond à la durée du contrat de travail ou c'est encore ou ça peut être aussi un an renouvelable en cas de CDI, là, qui sont les contrats à durée déterminée. Puis finalement, la dernière mesure, c'est renouvellement automatique des titres pluriannuels à condition de parler français. c'est à croire que Darmanin et Dussault se sont inspirés de François Legault.
Ben oui.
Il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui seraient concernées par cette mesure-là, selon les estimations de Darmanin. C'est à suivre, puisque bon, le projet de loi va être débattu au cours du premier trimestre 2023. Donc, il y aura plus de détails là, éventuellement. Mais je terminerai en disant qu'avec ces réformes-là qui touchent les travailleurs, travailleuses migrants et qui sont soutenues par les organisations patronales comme le MEDEF, mais décrié par la droite et l'extrême droite, bien, la France, en fait, suit une tendance lourde, là, tant en Europe comme ici d'ailleurs, on vous en a déjà parlé, en se tournant vers une politique d'immigration dite choisie, ou plus précisément de régulation choisie, c'est-à-dire au compte-gouttes et pas massive.
Ouais, qu'elle essaye de faire passer même pour des assouplissements, mais c'est des assouplissements pour les employeurs.
En fait, voilà, c'est ça. Exactement ça.
Ben merci beaucoup, Marie-Ève. Peu importe où on est dans les pays occidentaux, c'est pas mal souvent la même chose. Ben on va aller déjà en musique avec Achigan, la pièce « Mes parents sont racistes ». On est sur...
Sommet bien assis par-dessus leur peur. Oh, la vie conduite de idéologie. Un poisson sans mer, un père sans repère. Un chat qui joue son frère. Abandonné au monde, entre le soleil et l'ombre, je porte en moi la solitude de la multitude. Je roule vers la maison en cette belle saison des réjouissances familiales et des tortures.
Entendez le groupe punk rock actif depuis 2010 à Chigan, groupe indépendant de Québec, la pièce « Mes parents sont racistes » de leur tout récent et troisième album paru en septembre dernier, « Les procès condamnés », album qui est actuellement au palmarès « Brutal » de Choc. Ma voix...
« Brutal ».
Merci Mathieu. Mathieu qui est à mes côtés, vous avez pu le constater, j'ai pas peur. Pour son segment autochtone, j'en profite donc pour vous mentionner la sortie d'un rapport assez dévastateur sur les stérilisations forcées, les violences obstétricales et les avortements non consentis au Québec jusqu'en 2019. L'étude portait jusqu'en 2019, donc selon ce qui a été recensé dans le rapport publié la semaine dernière qui s'intitule « Consentement libre et éclairé et les stérilisations imposées de femmes des Premières Nations et Inuits au Québec ». Ça a été produit par la chaire de recherche sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Il y avait une croyance populaire comme quoi ces pratiques-là existaient pas ou peu au Québec. Ben, on peut plus se mettre la tête dans le sable. On n'est pas vraiment mieux qu'ailleurs à ce niveau-là. Le rapport est difficile à lire. On donne des exemples très crus, très précis du comportement de professionnels en santé. Le discours qu'ils tiennent envers les femmes autochtones, comment ils imposent leur vision aux femmes, tout le mépris qu'ils ont envers elles de manière parfois hypocrite, mais parfois carrément frontale. Je donne un exemple. T'as trop d'enfants, ça suffit, m'a réglé ça. Et qui pratiquent des opérations souvent extrêmes. Ça va de la ligature des trompes au retrait complet de l'utérus pendant qu'une femme est sous anesthésie, sans son consentement, évidemment. Au moins 55 femmes, et c'est une sous-estimation, ont vécu ce genre de violence médicale au Québec entre 1980 et 2019. Le rapport détaille très bien où, quand et quoi a été effectué sur des femmes autochtones sans leur consentement. Question de rajouter à la violence générale, il faut mentionner que le gouvernement du Québec est le seul au Canada à avoir refusé de participer aux travaux lancés par le fédéral en 2018. La ministre responsable à l'époque, Sylvie Damour, disait que ça n'existait pas vraiment au Québec, même s'il y avait déjà des rapports dans le passé qui mentionnaient des stérilisations et avortements forcés sur des femmes autochtones. Donc voilà, plusieurs recommandations en conclusion du rapport pour que cessent ces pratiques violentes. Et bien sûr, honte de choc dans les communautés inuites et autochtones qui ont exprimé à nouveau leur colère, leur tristesse et leur demande de reconnaissance du racisme systémique du principe de Joyce par le gouvernement Legault. On verra. Hein?
La distinction québécoise, la société distincte.
Voilà. Ouais. Mathieu, tu poursuis sur d'autres enjeux autochtones.
Oui, pas sur les mêmes. Je parlerai pas de santé aujourd'hui. Un petit peu de protection de l'enfance à la fin si j'ai le temps. Plutôt enjeux territoriaux et ressources naturelles, je dirais. Surtout dans l'Ouest, je commence avec la Saskatchewan.
OK.
Le gouvernement provincial a une obligation légale de consulter les Premières Nations quand il veut vendre des terres de la couronne. Le NPD de la Saskatchewan et des dirigeants autochtones lui demandent d'accepter des changements dans la loi provinciale pour que les Autochtones soient désormais consultés en priorité. Pour l'instant, le gouvernement provincial envoie des avis aux communautés autochtones quand des terres de la couronne qui se trouvent près de leur communauté sont mises en vente. Donc, le projet de loi 610 qui a été déposé demande que des consultations soient comprises et que les Autochtones aient la priorité pour acheter des terres publiques mises en vente dans la province.
Okay.
C'est assez simple, hein? Le processus actuel où les terres sont vendues dans des encans est une restriction aux droits de chasse, de pêche, de rassemblement et d'occupation du territoire des Autochtones. Membre du Conseil des membres de la Première Nation, Lac-Laronge, Devin Bernatché affirme que l'obligation de consultation de la province n'est qu'une façade actuellement. Je le cite, ce n'est pas une obligation de consulter, mais plutôt une obligation d'insulter, car
ah ben.
Cela insulte les relations de traité que nous avons aujourd'hui. Au printemps dernier, le ministre des Relations avec les Autochtones de la Saskatchewan a reconnu que le processus de consultation auprès des communautés autochtones avait des failles. Il a ajouté qu'il n'était pas nécessaire d'inclure l'obligation de consulter dans la loi, car elle figure déjà dans l'article 35 de la Constitution canadienne. C'est un peu technique, mais vous allez voir, je vais continuer à éclaircir. Quelques jours auparavant, dans le discours du trône, le gouvernement de la Saskatchewan a annoncé des changements à la loi pour défendre ses ressources naturelles contre Ottawa. Or, ces changements font fi des droits fonciers des Premières Nations de la province, selon le commissaire au traité. Il y a un commissaire au traité là-bas pour l'application des traités avec les Autochtones. Okay. Les Premières Nations ont un droit inhérent aux terres et aux ressources naturelles du Canada. Elles ne sont pas un groupe d'intérêt, a souligné le commissaire. Quand même intéressant. Elles doivent être des co-décideuses et des lois comme celles-ci doivent être écrites en collaboration, en adoptant une perspective globale sur les enjeux sociaux, environnementaux et culturels et non seulement sur les impacts pour l'économie. Et pour terminer sur la Saskatchewan, en plus, vous allez voir, c'est quand même assez drôle, les droits des Autochtones en matière de ressources naturelles ont été ignorés dans le document d'analyse de la province adressé au gouvernement fédéral, affirme la Fédération des Nations Autochtones Souveraines de la Saskatchewan. Faut savoir qu'actuellement, en Saskatchewan, en Alberta, on veut s'opposer au fédéral, entre autres pour les réglementations environnementales. Fait que là, on fait toutes sortes de projets de loi pour dire qu'on est autonome, puis qu'on veut absolument gérer nous-mêmes nos terres et nos ressources naturelles. Donc, c'est toutes sortes de projets de loi. Celui de l'Alberta, j'en parle à l'instant, on en a entendu parler cette semaine. Et les Premières Nations sont complètement exclues de ça, ce qui fait un peu la situation. Donc, le ministère des Finances de la Saskatchewan a publié un document analysant les politiques du fédéral en matière de changement climatique. Et ce document révèle qu'il estime que 9 politiques fédérales en matière de pollution pourraient coûter 111 milliards de dollars à l'économie de la Saskatchewan entre 2023 et 2035 parce qu'il serait obligé de moins produire de pétrole, entre autres. Donc, de l'idée de vendre des terres aussi pour faire de l'argent et continuer à exploiter les ressources. Scott Moe, le premier ministre de la province, quand il y a eu le lancement du document, n'a fait aucune mention des droits ou de l'histoire des Premières Nations lors de la publication du document. Interrogé aussi au sujet de cette omission, le premier ministre Scott Moe a déclaré que lui et ses collègues députés parlent fréquemment avec des personnes de toute origine. Vous voyez, c'est quand même pas pire. Fait que ça, c'est en Saskatchewan. En Alberta, bien sûr, vous n'avez peut-être plus entendu parler. Les chefs des Premières Nations des traités 6, 7 et 8 s'opposent publiquement au projet de loi sous la souveraineté de l'Alberta qui a été déposé cette semaine. Ils estiment qu'il est illégal, inconstitutionnel et ne respecte pas leurs droits en tant que signataire de traité. Selon la première ministre Danielle Smith, ce projet de loi donnerait à l'Alberta le pouvoir de ne pas appliquer des lois et des politiques fédérales jugées contraires aux intérêts de la province. Une majorité d'experts estime que ce serait inconstitutionnel comme projet de loi quand il sera voté dans les prochaines semaines. Les chefs des 3 traités affirment que la première ministre ne les a pas consultés. On revient un peu à la même chose. Ce projet de loi est basé sur la fausse impression que la province et d'autres entités ont autorité sur les terres autochtones, dénonce le grand chef de la Confédération des Premières Nations du traité 7, Darcy Dixon. Ce projet de loi donne le pouvoir à la province d'autoriser l'extraction des ressources n'importe comment, sans protection et sans respect de la propriété du territoire.
Mais ça rejoint la Saskatchewan.
Finalement. Exactement. Ah, ouais. C'est deux gouvernements un petit peu jumeaux, là, on le sait actuellement. Au cours de la dernière décennie, Danielle Smith, à plusieurs reprises, a affirmé que son arrière-grand-mère était Cherokee, un groupe des Premières Nations des États-Unis. Le réseau de télévision autochtone APTN a publié une enquête récemment retraçant l'arbre généalogique de la première ministre. Il n'a trouvé aucune preuve d'un ancêtre Cherokee. Un peuple qui a pourtant conservé des archives très détaillées sur ses membres. Questionné sur la possibilité que Danielle Smith se déclare d'un héritage autochtone sans en avoir la preuve, les chefs des traités présents à la conférence de presse ont explosé de rire. Après avoir bien ri, le grand chef Tony Alexis a rappelé la souffrance historique des Premières Nations et je le cite, « Une vraie personne autochtone ne s'opposerait pas aux droits des signataires des traités comme elle le fait. » Donc c'est ça la situation actuellement, on entend moins parler de la question autochtone dans ces enjeux-là, mais c'est assez important.
Donc, elle protagonise un peu pour se donner une genre d'autorité morale sur le débat, en fait.
Puis après, elle a fait n'importe quoi, finalement. Ça. Donc, c'est ça. En Colombie-Britannique, le conseil municipal de Vancouver a adopté la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones il y a à peu près 3 semaines, faisant de la métropole britanno-colombienne l'une des premières villes du pays à l'adopter. C'est le résultat de partenariats avec les Premières Nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Un groupe de travail a recommandé notamment d'assurer une meilleure représentation des communautés autochtones dans les différents conseils de la ville et d'encourager les élus municipaux à inclure les enseignements autochtones dans les processus de décision. Et écoutez bien celle-là, le groupe recommande entre autres à la police de Vancouver de s'engager à intégrer les principes de la déclaration ainsi que les recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation et de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones en collaboration avec des Premières Nations locales.
Gros projet.
Beau défi, hein? L'objectif de tout ça, en travaillant avec les Autochtones, c'est de coordonner ensemble les décisions de la ville dans différents dossiers. Peut-être vous souligner aussi que le conseil municipal a également adopté une motion visant à permettre au groupe de travail de continuer de travailler à la mise en place de la déclaration au cours des 6 prochains mois. Puis sinon, ben en terminant, la Colombie-Britannique a adopté une loi qui reconnaît les droits inhérents des Autochtones à prendre en charge leurs services à l'enfance et à la famille.
Bon.
Ça, c'est une première qui le fait vraiment officiellement. Il y a quelques ans...
C'est une bonne nouvelle, ça, quand même.
Il y a eu des ententes avec certaines communautés dans d'autres provinces, mais jamais dans l'ensemble de la province. Donc, ça va permettre aux communautés de collaborer avec le gouvernement pour s'assurer que les Autochtones peuvent diriger et fournir des services basés sur leurs propres lois familiales et sur leurs propres enfants. Cette loi met par ailleurs en place un nouveau directeur chargé du système de protection des enfants autochtones au sein du ministère de l'Enfance et du Développement familial. Son rôle sera notamment d'harmoniser les lois autochtones et provinciales pour améliorer la situation des enfants et des jeunes autochtones. Ça, ça a été adopté cette semaine. Pendant ce temps-là au Québec, on comptait sa loi fédérale qui donne des droits autochtones en matière de protection de l'enfance.
Bon, ben merci beaucoup, Mathieu.
Ça fait plaisir.
C'est ce tour d'horizon des actualités autochtones. On va faire quelques notes de musique et on revient par la suite avec Marie-Ève. Apatrides anonymes sur choc.ca, édition du 1er décembre 2022. Juste toujours, on revient avec Mathieu, avec Marie-Ève, puis j'en profite tout le temps pour prendre 3-4 minutes et faire des brèves. Donc, avant d'aller en Angleterre, dans 2 minutes avec Marie-Ève, une petite brève locale. On a souvent entendu parler de l'exploitation des travailleurs migrants ou immigrants au Québec via des agences en santé, en entretien chez Amazon, chez Dollarama. Une autre entreprise qui embauche énormément de personnes issues de l'immigration, c'est les marchés Adonis, dont les employés tentent depuis 2019 de se syndiquer, tout en faisant face, selon le syndicat des travailleurs et des travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, à des pratiques antisyndicales agressives de la part de la direction des marchés Adonis, qui est le groupe Metro, qui a acheté la bannière Adonis il y a quelques années. Donc, on dénonce le fait que, contrairement aux autres bannières qui appartiennent au groupe Metro, dont les supermarchés Metro, évidemment, les conditions seraient beaucoup plus mauvaises chez Adonis, et on attribue ça au fait que chez Adonis, la main-d'œuvre est principalement immigrante. Donc, comme dit Marie-Ève, des fois, tout est dans tout. Donc, il y aurait traitement différencié qu'on n'arrive pas à expliquer autrement. Il y aurait aussi toutes sortes de tactiques douteuses de l'intimidation ou la réduction des corps de travail pour ceux et celles qui militent pour la syndicalisation. On jouerait beaucoup sur le dénigrement et surtout beaucoup sur le sentiment de culpabilité, de trahison par rapport à ses collègues ou à son employeur qui est la bonne main qui te nourrit depuis tant d'années, la première entreprise qui t'a donné une chance quand t'as débarqué sans le sou au Québec, on est une grande famille, blablabla. Bla, bla. Ça a l'air qu'on joue vraiment beaucoup avec ce genre de chantage émotif. Bref, ça joue dur au point que le tribunal administratif du travail a ordonné au groupe Adonis d'arrêter de nuire aux activités syndicales. Pour l'instant, un seul sur 17 marchés Adonis, seulement celui de DDO, Dollar des Ormeaux, a reçu son accréditation syndicale, mais les négociations pour une convention collective n'ont pas encore abouti. On va souhaiter bon courage aux employés d'Adonis dans leur lutte pour des meilleures conditions de travail et on leur souhaite de ne pas se laisser endormir par le très bas chantage et des très petites manipulations sentimentales des patrons. Donc, sans plus de transition, on passe des marchés Adonis à l'actualité britannique.
Oui, mais vous allez voir qu'il y a un lien avec ce dont tu as parlé en Autriche pas en Allemagne, Simon. Okay. Parce que je vais parler d'autre chose que les traversées de la Manche pour une fois. Plus particulièrement d'un centre pour personnes migrantes digne d'un lieu de tournage de la série de films d'horreur Hostel ou L'Auberge en français. Les premiers articles concernant le centre de traitement des demandeurs d'asile de Manston, qui est situé dans le Kent, sont parus au début novembre, mais le centre a continué à défrayer la chronique pendant tout le mois, jusqu'à ce qu'il soit totalement évacué, tellement les conditions de vie y étaient exécrables en raison notamment de la surpopulation. Surpeuplé est selon moi un euphémisme, vous allez voir, puisque Plus de 4000 personnes, y compris des enfants, y étaient hébergés jusqu'à il y a quelques semaines, alors qu'il est prévu pour en accueillir 1600.
Oh là là. Okay.
Et ce, pour une durée de 24 heures seulement, avant leur transfert dans des logements temporaires.
Parce que là, tu dis dans le Kent, on est près de la Manche, donc j'imagine des gens qui,
exact,
qui débarquent.
Exact, c'est principalement des gens qui traversent la Manche.
Okay.
Donc, face à cette surpopulation-là, les personnes devaient dormir sur des matelas à même le sol. Il y a un représentant syndical du personnel du centre qui a été interrogé par le Guardian, qui a même décrit un lieu, je cite, « catastrophiquement surpeuplé ».
Ouais.
L'accès au centre est strictement interdit. C'est impossible pour les militants, militantes de groupes de soutien aux personnes migrantes d'échanger directement avec ces dernières, puisque leurs téléphones leur sont confisqués en même temps que toutes leurs possessions dès leur arrivée au centre. D'ailleurs, il y a l'image d'une migrante mineure courant vers les grilles du centre pour remettre à des journalistes une lettre manuscrite qui était cachée dans une bouteille et donc qu'elle lançait par-dessus la clôture et dans laquelle elle dénonçait les conditions de détention. Cette lettre-là, en fait, cette image-là a fait la une des médias, de tous les médias britanniques début novembre. Je vous cite des extraits de cette lettre-là. « S'il vous plaît, aidez-nous. On ne se sent pas bien. On est comme en prison. Il y a beaucoup d'enfants ici. Ils ne devraient pas être ici. Ils devraient être à l'école, pas en prison.
Ben » oui.
Et la lettre se poursuivait en précisant qu'il y avait 50 familles qui étaient retenues dans le centre depuis plus de 30 jours et qu'un enfant handicapé était laissé sans soins. Et pourtant, le délai maximal de détention dans ce centre-là, qui est prévu par la loi, est de 5 jours maximum. Donc, face au tollé, les autorités ont commencé à évacuer le centre là, au compte-gouttes. Maintenant, comme je vous disais, là, il est complètement évacué, mais ça a été long. Plusieurs journaux ont fait état de demandeurs d'asile déposés dans une gare routière ou ailleurs, livrés complètement à eux-mêmes sans solution d'hébergement.
Donc, c'est ça l'évacuation.
Oui. Alors que des logements temporaires auraient dû leur être fournis. Il y a d'autres critiques qui visent la manière dont sont gérées les évacuations. Selon des informations rapportées, entre autres, par le Guardian encore, ainsi que par des organisations de soutien aux personnes migrantes, des gardes du centre de Manston auraient dit à des mineurs de déclarer avoir plus de 18 ans pour être évacués plus rapidement. Selon aussi les témoignages de plusieurs évacués, certaines personnes détenues étaient malades. Il y a au moins 8 cas confirmés de diphtérie, qui est une infection bactérienne très contagieuse et potentiellement grave, qui ont été détectés parmi les migrants détenus. Il y a un homme qui en est d'ailleurs mort. Il y a eu une enquête et ça a été confirmé. L'Agence de sécurité sanitaire britannique a dénombré plus d'une cinquantaine de cas de diphtérie depuis le début de l'année, selon la BBC, en Angleterre, là, au Royaume-Uni.
Oui, oui, oui.
Une épidémie de gale s'est aussi déclarée sur le site. Bref, les autorités sanitaires craignent maintenant que des personnes infectées se propagent la maladie dans d'autres lieux d'hébergement. Il y a le président de l'Association des directeurs de la santé publique britannique, Jim McManus, qui a accusé le ministère de l'Intérieur d'un manque de coordination qui a rendu la situation bien pire qu'elle n'aurait dû l'être. La ministre de l'Intérieur, elle, cette chère Suella Braverman, est accusée d'être personnellement responsable du surpeuplement du centre de Manston parce que selon la BBC, elle aurait entre autres refusé d'approuver des mesures de transfert de migrants-migrantes vers des logements plus appropriés, même si elle avait été avertie que le gouvernement agissait en dehors de la loi en proposant pas d'hébergement alternatif aux demandeurs d'asile. Et si c'est vrai, si ça s'avère, ce refus-là, le gouvernement britannique pourrait potentiellement faire face à des centaines de plaintes pour détention illégale. Et en plus de tout démentir, tu parlais tantôt en intro qu'on fait des fois des citations racistes, il y en a une pas pire qui s'en vient.
Oui.
En plus de tout démentir, Suella Braverman a jeté l'huile sur le feu lors d'un débat houleux au Parlement britannique en parlant d'une invasion de migrants. Et elle a ajouté « Arrêtons de prétendre qu'ils sont tous des réfugiés en détresse. Le système est cassé. L'immigration illégale est hors de contrôle. »
Bref, ben, c'est le discours alarmiste habituel.
Exact, c'est ça. Je termine en disant que si Olivier Niquette a sa pire personne de la journée à l'émission de la journée est encore jeune, ben nous, aux Apatrides Anonymes, on a notre pire personne de l'année et c'est Suella Braverman.
On retient ce nom-là. Merci, Marie-Ève. On va aller pour ces actualités britanniques. On s'en va tout de suite en musique avec les Yeah Yeah Yeahs, la pièce Fleas. Toujours aux Apatrides Anonymes, Simon avec vous, j'ai Mathieu à mes côtés qui va vous parler dans quelques minutes. Beaucoup de yeah yeah dans cette pièce, et ça tombe bien, on entendait les yeah yeah yeahs, groupe indie rock de New York qui n'a pas vraiment besoin de présentation. L'album Cool It Down, leur premier en 9 ans, est paru en septembre dernier sur l'étiquette Secretly Canadian et il figure au palmarès anglo de choc. On écoutait la pièce Fleas, F-L-E-E-Z. On vous parlait récemment de la petite ville portuaire tunisienne de Zarzis, d'où partent vers l'Europe non seulement des migrants subsahariens ou en provenance du Proche-Orient, mais des Tunisiens aussi, parfois de la ville même de Zarzis. Il y avait eu récemment des naufrages avec plusieurs morts, des disparitions, des enterrements sauvages. Le corps de tout le monde, migrants, tunisiens, tout le monde mélangé pêle-mêle dans un cimetière de fortune, ça avait provoqué la colère des habitants de la ville. Des familles demandaient même aux autorités de déterrer les morts pour que les choses soient faites un peu plus proprement, c'est-à-dire identifier les corps, faire des prélèvements si nécessaire, permettre ensuite aux proches d'offrir une sépulture qui a de l'allure à leurs parents ou à leurs amis selon les rites qui leur conviennent. Donc, faute d'écoute de la part des autorités, ben les proches se sont mis à fouiller eux-mêmes les tombes et à déterrer les morts. Et le gouvernement tunisien, pour sauver la face, a annoncé finalement une enquête sur les naufrages récents et tous les événements qui s'en sont suivis. Mais malgré tout, les manifestations et la répression à coups de bâton se poursuivent encore à ce jour. Dernière petite brève espagnole cette fois, avant de passer le micro à Mathieu pour plus d'international. On est dans un autre registre complètement, c'est assez inusité. Condamnation à 15 mois de prison pour diffusion de fausses informations au sujet des migrants sur les réseaux sociaux. Pour un policier de Canet ou Canette de Mar, je ne sais pas comment on prononce, c'est une petite ville catalane. On se remet dans le contexte, on est en 2019 dans cette petite ville maritime où se trouvent beaucoup de migrants. Il y a de la tension, sentiment de xénophobie grandissant. Ben, le policier qui était un habitué des publications racistes en ligne, il y va d'une fake news et publie la vidéo d'une femme frappée et laissée inconsciente par un soi-disant mineur isolé qui aurait été pris en charge par les services sociaux de la ville. Ça, c'est selon le commentaire que le policier a écrit pour accompagner sa publication. Sauf que, ben, la vidéo datait de je sais pas quand et provenait de Chine. Donc, selon Infomigrant, il s'agit du premier procès pénal pour fausses nouvelles en Espagne. Il y a un autre procès du genre à venir, toujours en Espagne. Une femme va bientôt être jugée pour avoir publié une vidéo d'agression d'une professeure soi-disant catalane par des soi-disant migrants, alors que l'incident filmé s'est produit au Brésil. On se demande des fois, mais d'où vient tout ce racisme? Ben, il vient de là. Donc, Mathieu, tu commences avec Tigré, Kazakhstan...
C'est la faute des réseaux sociaux, hein? Puis,
ben, disons qu'on alimente le racisme avec tout ça.
Non, mais c'était une blague, parce que je vais parler du Kazakhstan, où les réseaux sociaux, c'est pas très, très accessible.
Légèrement qu'on... Il n'y a pas de racisme au Kazakhstan.
Non, il y a une seule idéologie, de toute façon, oui. Donc, le président certain du Kazakhstan, Kassym Yomar Tokayev, a nettement remporté l'élection présidentielle en l'absence d'opposition, confirmant son statut de nouvel homme fort du plus grand pays d'Asie centrale.
Une grande surprise.
Oui, ben, y en a une, mais vous allez voir, c'est pas... Au terme d'une année noire pour cet État riche en ressources naturelles. Donc, l'homme de 69 ans arrivé au pouvoir en 2019, donc un deuxième mandat, obtenu 81%. Comme attendu, ses cinq opposants ont fait de la figuration. Aucun d'entre eux ne dépassant les 3%. Quant à l'option de vote contre tous, une nouveauté à ce scrutin, elle a séduit 6% des électeurs et est arrivée en deuxième position.
Ah. Mais c'est quoi cette option-là?
C'est comme annulé. Tu votes contre tous les candidats.
Ah, OK.
Donc, oui. C'est l'opposition officielle, c'est voter contre tous les candidats à 6%.
Mais les opposants, c'était comme des panneaux de carton?
Hein, ben, à peu près, là. Okay. À peu près des
plantes vertes.
Des amis, là, des membres du parti, j'imagine. Le Kazakhstan a plongé dans le chaos en janvier lorsque des manifestations contre la vie chère ont dégénéré en émeute avant d'être brutalement réprimées, vous en rappelez?
Oui.
Bilan, 238 morts. Je me rappelais pas quand même que ça avait été aussi élevé. Notre ami Tokayev a répété son attachement aux réformes économiques et à la fin du monopole au pouvoir, comme l'a connu le Kazakhstan durant les trois décennies du régime de Nursultan Nazarbayev, qui a démissionné en 2019. Donc, le président candidat avait fait campagne en portant son projet visant à créer un nouveau Kazakhstan plus juste et plus égalitaire, mais les difficultés économiques persistent, tout comme les réflexes autoritaires. Monsieur Tokayev, qui a fourni ses premières armes en tant que diplomate soviétique dans les années 80, est devenu à l'indépendance un homme clé de l'ancien régime de Nazarbayev.
Il y a un beau CV de militant, hein?
Oui, oui. Il s'est mué cette année.
Un grand démocrate!
Il s'est mué cette année en dirigeant implacable, faisant tirer sur les émeutiers en janvier, arrêtant des proches du clan de l'ancien président, donc son ancien chef Nazarbayev, puis tenant en tête à Vladimir Poutine sur différents dossiers. Le paysage politique reste déserté, l'opposition muselée par la pression des autorités, puis on parle pas des médias, entre autres, et tout ça. On a vu plusieurs votants se prendre en photo devant des bureaux de vote, nombre d'électeurs invoquant l'obligation de montrer le lendemain la photo à leur employeur, qui travaillent pour le régime, évidemment, une preuve qu'ils sont allés voter.
Ben oui.
Évidemment. Avant le scrutin, les observateurs électoraux internationaux de l'OSCE ont déploré que leurs recommandations relatives aux libertés fondamentales et aux conditions d'éligibilité et d'inscription des candidats soient restées sans suite. Donc, voilà, un pays dont on ne parle pas souvent, mais il faut quand même suivre de temps en temps. C'est un gros pays.
Ouais, la soirée électorale devait être très beaucoup de suspense. Là,
beaucoup de suspense. Oui, oui. Ouais. Il doit y avoir beaucoup de discours aussi à la fin de différents candidats. Donc, sinon, ben, autre pays, autre continent, le gouvernement fédéral éthiopien et les autorités rebelles du Tigré ont conclu début novembre à Pretoria, sous l'égide de l'Union africaine, un accord de cessation des hostilités à moins de 48 heures du deuxième anniversaire du conflit meurtrier qui les oppose dans l'ordre de l'Éthiopie. Les deux parties se sont formellement mises d'accord sur un désarmement méthodique ordonné en douceur et coordonné. C'est les termes de... Cet accord prévoit un rétablissement de l'ordre public, des services au Tigré, un accès sans entrave aux fournitures humanitaires, la protection des civils, etc., etc. Les détails des dispositions de l'accord et de sa mise en œuvre n'ont pas été toutes dévoilées, par contre. Les médiateurs n'ont ainsi pas indiqué ce que prévoit le document concernant les autres acteurs du conflit, particulièrement l'armée de l'Érythrée voisine, ennemie jurée des Tigréens, elle est pour l'armée fédérale éthiopienne au Tigré. L'armée éthiopienne reçoit aussi le soutien de milices des régions de l'Amara et de l'Afar voisines, donc ils ne sont pas dans l'accord elles non plus de toute façon, donc il reste des angles morts, c'est moins qu'on puisse dire.
C'est très compliqué comme situation, parce qu'il y avait déjà eu des accords partiels et temporaires avec certains groupes.
Là, ça a l'air à tenir. Ça, c'était au début novembre, je vous mets à jour sur la suite. Le bilan du conflit, ben justement, le bilan du conflit marqué par d'innombrables exactions et qui se déroule largement à huis clos est inconnu, mais l'International Crisis Group et Amnesty le décrivent comme l'un des plus meurtriers au monde des dernières années. La guerre a provoqué une catastrophe humanitaire dans le nord de l'Éthiopie, déplaçant plus de 2 millions d'Éthiopiens et plongeant dans des centaines de milliers de personnes dans des conditions proches de la famine. Mmh. On parle évidemment, on en a parlé dans d'autres émissions, de l'obstruction à l'accès à la nourriture, aux médicaments, aux services de base. Le Tigré est largement privé d'électricité, de télécommunications, de services bancaires depuis plus d'un an. Donc, ça, c'est la situation. Cette semaine, j'ai lu un article que l'aide humanitaire s'organise pour la population au Tigré. Le gouvernement éthiopien a déclaré que plus de 450 000 personnes ont bénéficié d'une première livraison d'aide humanitaire après la signature de l'accord. C'était la première depuis des mois.
Ouais.
Mais pour le programme alimentaire mondial, c'est pas suffisant car des milliers de personnes ont encore besoin d'assistance dans cette région sinistrée où presque tout est à reconstruire. Un groupe de 72 organisations non gouvernementales indépendantes basées au Tigré demande ainsi que les termes de l'accord signé entre le fédéral et les dirigeants du Tigré soient respectés. Donc, on est là actuellement. Donc, est-ce que l'accord est... C'est pas encore accessible, le Tigré, vraiment aux médias et aux ONG tant que ça. Il y a des choses qui sont pas encore déterminées dans l'accord. Il y a encore des tractations militaires. Donc, c'est une situation à surveiller.
Mais le cessez-le-feu, il tient? Là, il y a pas eu...
Oui, au niveau des combats, ça a l'air que depuis début novembre, ça tient. Donc, presque un mois. Donc, voilà. Fait que... Sinon, ben j'ai du temps.
Vas-y, Mathieu.
C'est merveilleux. On reste en Afrique. L'Organisation internationale des migrations et le gouvernement nigérien ont annoncé avoir rapatrié récemment 117 migrants nigériens coincés en Libye. La mission nigérienne à Tripoli avait déjà annoncé avoir rapatrié 137 exilés la semaine d'avant. 48 d'entre eux auraient été libérés des centres de détention libyens connus pour leurs conditions de détention extrêmement difficiles. De plus, 542 personnes ont été rapatriées au Nigeria depuis les Émirats arabes unis, où de nombreux migrants tombent également dans des situations d'exploitation. Donc, le Nigeria est assez actif. Près de 3000 Nigériens ont été rapatriés de Libye au pays entre janvier et octobre grâce au programme de retour volontaire de l'OIM. Selon les chiffres de l'OIM encore, datant de juin dernier, environ 31 000 migrants originaires du Nigeria se trouvent en Libye, soit 5 % du total de plus d'un demi-million d'exilés présents dans le pays actuellement, selon les estimations. Cependant, les conditions des retours volontaires des migrants dans leur pays d'origine ne sont pas toujours faciles. Beaucoup croulent sous les dettes, incapables de trouver du travail et brisés parce que les trafiquants leur ont fait subir. De nombreux rapatriés souffrent de ces sérieuses séquelles psychologiques et sont souvent stigmatisés et rejetés à leur retour, particulièrement les femmes qui ont été exploitées dans des réseaux de trafic sexuel.
Ouais, qui ne sont plus vierges, par exemple.
Oui, tu sais, puis qui ont pas...
Ça a l'air de con, mais bon.
Entre autres, oui, puis ils sont aussi... très affecté. Donc, ça, le Nigeria s'active pour rapatrier ses ressortissants. Sinon, dernière nouvelle que j'ai, on va revenir sur les migrants et les traversées. On n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais on a fait allusion. Quatre corps ont été repêchés au large de la Sardaigne la semaine dernière après le naufrage d'une embarcation partie d'Algérie. Deux autres personnes sont portées disparues. Sept passagers secourus en pleine mer par un navire marchand ont été transférés dans un port de l'île. Les rescapés ont été transférés sur un patrouilleur des gardes-côtes sardes, puis amenés au port de San Antioco, où les attendaient des policiers et des agents de Frontex, les chanceux.
Qui est en Sardaigne, j'imagine.
En Sardaigne, oui. Au regard des routes dites traditionnelles en Méditerranée, ce passage entre les côtes nord-africaines et la Sardaigne reste peu fréquenté.
Oui.
La majorité des migrants débarqués sur l'île partent d'Algérie, dont les côtes se situent à seulement 200 km. Environ 90 % des arrivées d'Algériens en Italie se font en Sardaigne, par exemple, pour les Algériens. Malgré la courte distance qui sépare le littoral africain de la Sardaigne, si l'Américaine, ses côtes peuvent être atteintes en 10 à 12 heures en petit bateau.
Ben, c'est loin quand même.
200 km. Ouais. Ah ouais. La traversée reste très dangereuse pour les Aragas, qui veut dire en arabe algérien « brûleur de frontières », surnom donné aux jeunes Algériens qui tentent de traverser la Méditerranée. Depuis 2009, l'Algérie punit le délit de sortie illégale du territoire.
Ben voyons donc.
Celui-ci prévoit une peine de 2 à 6 mois de prison ainsi qu'une amende de 20 à 60 000 dinars d'amende pour les Algériens ou les étrangers résidents qui tenteraient de quitter le territoire sans passeport ou visa. Parce qu'on veut éviter l'exode des jeunes, okay, entre autres. Puis c'est des accords aussi avec des pays européens aussi.
C'est
non?
Ça, je l'ai dit.
La répression est loin de porter ses fruits. Les Aragas, les brûleurs de frontières, sont au contraire confortés à quitter le pays avec la situation économique actuellement et politique en Algérie. Donc, on parle pas souvent de l'Algérie par rapport aux migrants, mais c'est ça. C'est la Sardaigne où est-ce qu'ils se retrouvent le plus souvent par des bateaux de fortune.
Effectivement, c'est peut-être même la première fois qu'on entend parler d'embarcations qui quittent les côtes algériennes,
ouais,
pour se rendre vers l'Europe.
Puis même la Sardaigne.
C'est Libye, Tunisie en général.
Oui, tout à fait. Ouais. Donc voilà pour mon tour partiel du monde.
Parfait, merci beaucoup Mathieu. On a appris plein de choses. On lance les casseroles et on se retrouve avec l'agenda. Plusieurs activités à mettre à votre agenda dans les jours et semaines qui suivent. On va y aller dans l'ordre chronologique. D'abord, une exposition qui est déjà commencée, qui met en valeur la sculpture, la photo, la poésie, la danse, mais surtout la musique inuite, un genre de portrait de son évolution depuis avant l'arrivée des colons dans le Grand Nord jusqu'à aujourd'hui, avec plein de vidéos de performances. C'est au Musée des Beaux-Arts de Montréal jusqu'au 12 mars 2023. Je ne l'ai pas vu, donc je vous en dirai peut-être plus.
On va y aller nous aussi, oui.
Parfait,
ça.
On vous en reparlera. Autre activité, mercredi 7 décembre, la revue Relations lance son nouveau numéro dont le thème est « Vivre sans statut au Québec », avec emphase sur le possible programme de régularisation massive du fédéral et appui aux organismes qui militent pour ça depuis des années. Il y aura des prises de parole par des représentants du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants, de Solidarité sans frontières et de Médecins du monde. Donc, lancement du nouveau numéro de la revue Relations le 7 décembre 2018 à la librairie Zone Libre au 262 Sainte-Catherine-Est, tout près de l'UQAM. Le vendredi 9 décembre, manifestation large contre la COP15, mais pour la biodiversité, organisée par plein d'associations étudiantes, dont plusieurs de l'UQAM. On entend de plus en plus le fait que ce genre de sommet international élitiste, c'est surtout du greenwashing qui vise plus à sauver le capitalisme que l'environnement. Ben voilà l'occasion de l'exprimer. C'est au Carré Saint-Louis, 9 décembre à 15h. Info sur fucklacop15.org. Ensuite, une pas pire idée d'Amnesty International, des marathons d'écriture de lettres destinées à des personnes injustement emprisonnées ou à des militants dont les droits sont bafoués un peu partout à travers le monde. Plusieurs endroits où participer à ces marathons d'écriture en gang. Il y en a à Montréal et aussi ailleurs au Québec. Consultez amnesty.ca pour les détails. L'événement s'appelle « Écrire, ça libère ». Lundi 12 décembre, le Frappru va faire circuler un char allégorique à plusieurs endroits de Montréal pour rappeler sa revendication envers le provincial de construire 50 000 logements en 5 ans. L'événement s'intitule « Tournée du Frappru à Montréal », tout simplement. Et les détails sont disponibles sur frappru.qc.ca. Sinon, suggestion de lecture d'un ouvrage qui a l'air assez percutant et qui redonne à Christophe Colomb, son rôle central dans ce que les auteurs qualifient de pire génocide de l'histoire, celui des Amériques coloniales. Le livre s'intitule « Le génocide des Amériques ». C'est coécrit par la sociologue brésilienne Moema Viesser et l'anthropologue québécois Marcel Grondin, et c'est une nouveauté publiée sur Éco-Société. Le génocide des Amériques. Après la lecture, petite suggestion maintenant de visionnement sur Tout.tv, une série documentaire en 4 épisodes qui porte sur les 11 nations autochtones du Québec. Ça s'appelle « Laissez-nous raconter ». Je crois que Mathieu et Marie-Ève en ont vu quelques épisodes.
Les deux premiers ont été diffusés déjà. C'est très, très bon.
Très, très intéressant. On apprend plein de choses.
Oui, très instructif, oui. Très bien fait.
Parfait, merci beaucoup. C'est nos suggestions pour cette fois-ci. Donc, après ces quelques notes de musique, on va déjà devoir se quitter. Ça va être la fin de
ça
l'émission.
Ça va être triste.
Oui.
Peut-être.
avant de se dire au revoir, impossible de terminer l'émission sans mentionner la CAQ qui évidemment va faire appel de la décision de la Cour supérieure qui invalide l'article qui permet aux policiers d'intercepter des automobilistes.
Quelle
sans
bonne
motif.
Nouvelle.
Ben oui, ça commence bien. Hein?
Le nouveau mandat, là. Oui,
le nouveau
oui,
mandat
oui.
fort de la CAQ. Là. Donc l'appel est piloté par l'ineffable François Bonnardel, le ministre de la Sécurité publique. Et son collègue, nouveau responsable de la lutte contre le racisme, Christopher Skeet, successeur du très inutile Benoît Charrette. Donc, comme responsable de la lutte au racisme, ça commence bien pour M.
Oui,
Skeet, qui veut s'assurer que le profilage racial puisse se poursuivre comme avant. Donc, comme je disais, ça promet pour les 4 prochaines années.
Ah oui, c'est terrible.
mes collègues en sont découragés. Évidemment, ça va sûrement finir en Cour suprême, ça va durer des années, ça va nous coûter collectivement des dizaines de millions de dollars, et la décision initiale de la Cour supérieure va sûrement être validée par la Cour suprême. Et là, Legault va dire quoi?
La société distincte.
Oui, ou ingérence, comme d'habitude.
Et nous, on va se dire tout ça pour ça.
Ouais, ben oui, ben puis on va dire aux gens, on vous l'avait-tu donc dit? Sinon, on nous a présenté la semaine dernière le chef de police, je cite, le plus avant-gardiste au Québec, Fadi Daguerre. Il était beaucoup mention de prévention, de rapprochement, d'humanité, de sensibilisation.
De police communautaire.
D'intervention socio
sportive.
Psychosociale, socio-sportive.
En tout cas, je sens Mathieu et Marie-Ève légèrement dubitatifs. Anyway, on aura le temps de s'en reparler peut-être lors de la prochaine émission, la dernière de 2022. Ce sera jeudi le 15 décembre à 18h30. Peut-être qu'il va comprendre un spécial de fin d'année. On n'a pas eu notre meeting de production encore.
Il y a tellement d'actualité encore en 2022, hein?
Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à Fadi Daguerre, c'est que là, ça va nous prendre à un moment donné un terme un peu synonyme, tu sais, de greenwashing ou de trucs comme ça, mais par rapport au profilage, tu sais, puis par rapport à la police.
Du blue wash, non.
Non.
On va y penser.
On demande l'appui des auditeurs, auditrices.
Oui, ouais, c'est ça. Si vous avez des suggestions de termes, là.
Oui, écrivez-nous. Vous pourrez gagner une présence en studio, peut-être.
Peut-être. Une feuille de route.
Je sais pas dans quoi je m'embarque. Anyway, on aura le temps de s'en parler dans les prochaines émissions. Je vous laisse nos coordonnées. Tous nos épisodes sont en rattrapage sur choc.ca et dans notre site web apatridesanonymes.info. On est sur les ondes de Radio Victoria dans l'Ouest canadien au 107.9 FM. On a un courriel, apatridesanonymes@resist.ca.
Pour les suggestions.
On a aussi une page, Mathieu.
FB.
Voilà, bravo.
C'est une page brutale.
Non. Non. Mais le contenu peut être parfois brutal. Avant de saluer notre auditoire et mes collègues, je vous présente la dernière pièce musicale. C'est le quatuor Nouri and His Dorpa Band, la pièce Al Amal, de leur album paru en juin dernier, Beja Power, Electric Soul and Brass from Sudan's Red Sea Coast. Donc, groupe de la côte soudanaise de la mer Rouge qui fait face à l'Arabie Saoudite. On présente cet album comme une trame sonore de la révolution soudanaise, période de soulèvement populaire dont on a peu entendu parler, mais qui a duré de fin 2018 à la fin de 2019 pour aboutir à la chute du dictateur Omar el-Béchir après 30 ans de pouvoir.
Et là, les militaires sont revenus.
Oui, mais avec un nouveau discours, puis tout le temps des promesses d'élections libres puis de constitution, mais en tout cas...
Du militaire washing, c'est ça?
du démocratie washing.
C'est un autre genre de green, du khaki washing, je sais pas trop. Là, donc, Nouri and His Dorpa Band, soul, blues, jazz, rock, surf, tout ça bien amalgamé avec différentes influences musicales traditionnelles de l'Afrique de l'Est, des peuples Béja. Alors, merci tout le monde de nous écouter. Merci Marie-Ève, merci Mathieu.
Merci à toi, Simon.
Parfait, fait plaisir. On se retrouve le 15 décembre. On écoute Nouri and His Dorpa Band. C'était les Apatrides Anonymes sur choc.ca. Bye.
Bonne soirée.
Bye.